Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis avec Jean-François Vattier à la faisanderie dans la forêt de Compiègne. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la faisanderie ? Qu'est-ce que c'est et depuis combien de temps ça existe, cet établissement ?
Bah écoutez, je vais essayer de vous donner une explication un peu claire. Donc la faisanderie, actuellement, c'est un institut médico-éducatif, un établissement qui accueille des enfants dits en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on accueille des jeunes ici qui ont des difficultés multiples, garçons et filles de 6 à 20 ans, qui, du fait d'un certain nombre de singularités, n'arrivent pas à trouver leur place dans un système éducatif et scolaire ordinaire. Donc nous, on les accueille à ce titre-là. Donc on accueille ici 80 jeunes. Très peu arrivent à 6 ans, ils arrivent plutôt vers l'âge de 8-9 ans. Ils peuvent rester dans l'établissement jusqu'à leurs 20 ans, mais ça ne veut pas dire qu'ils passent toute cette période de leur vie dans l'établissement. Ils peuvent changer aussi de parcours et de trajectoire au fil du temps. Notre mission, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent après s'insérer dans la vie sociale, à travers la question du travail, à travers la question de l'autonomie, à travers la question de la participation à une vie sociale la plus ordinaire possible, quoi.
Et vous avez des résultats un petit peu après, quand les gens sont lâchés dans la nature, au niveau de cette adaptation-là ?
Le résultat est aussi quelque chose de relatif, tout dépend de la situation première. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont des difficultés importantes, qui nécessiteront pour une bonne partie de leur vie de pouvoir évoluer dans un milieu protégé. Nous, on associe toujours ces deux dimensions dans notre travail éducatif, c'est-à-dire le maximum d'autonomie possible et la protection nécessaire. Parce que notre société, elle n'est pas facile, elle est facile pour personne. Et pour les personnes vulnérables, un peu plus fragiles que d'autres, il y a heureusement des dispositifs sociaux qui permettent de les mettre en situation de protection. Alors, dans le cadre du travail, avec les établissements et les services d'aide par le travail, c'est le milieu du travail protégé. Et puis après, c'est aussi un accompagnement à la vie sociale, un accompagnement à l'habitat. On parle de plus en plus d'une société dite inclusive. C'est-à-dire qu'on essaye de construire un monde et nous d'y contribuer modestement pour que, en fonction des différences de chacun, je ne vais pas dire malgré les différences, mais justement les différences sont des chances pour qu'on construise une société plus tolérante et aussi d'une certaine façon plus ouverte.
Et cet établissement existe depuis combien de temps ?
Alors, c'est une longue histoire. Donc l'établissement en tant qu'IME existe ici depuis 50 ans. En 2019, on a fêté le 50e anniversaire de l'établissement qui accueille ici des enfants et adolescents en situation de handicap. Mais auparavant, il y avait déjà une activité médico-sociale depuis 1925 au titre de ce qu'on appelait le préventorium.
Qu'est-ce que c'est ?
Un préventorium, c'était un lieu où on accueillait des jeunes qui risquaient de contracter la tuberculose. Puisque c'est l'œuvre première de notre association qui s'appelle l'OPHS, Office privé d'hygiène sociale, qui est l'association gestionnaire de cet établissement, qui est née au début du XXe siècle pour s'intéresser, ou en tout cas avec comme mission première, la prophylaxie de la tuberculose, qui était un fléau au début du XXe, alors avec des phases historiques un peu différentes. Mais en tant qu'OPHS, c'est une association qui est née en 1921. Et puis ici, il y a eu une initiative locale portée par le maire de Compiègne de l'époque, qui était Robert Fournier-Sarlevez, qui a utilisé au sortir de la Première Guerre mondiale des fonds américains via la fondation Rockefeller pour mettre en place des dispositifs d'accueil dans ce qu'on appelait à l'époque le socio-médical, c'est-à-dire cette conjonction de besoins médicaux dans un monde et dans un pays français qui était un peu en retard sur l'équipement hospitalier. C'est la période aussi, c'est pas si vieux que ça, de grande découverte de l'arrivée des vaccins. Et il fallait mettre un peu à l'écart d'un milieu supposé pathogène des enfants qui venaient du nord de la France, de la région parisienne, mais qui associaient un peu deux choses, c'est-à-dire une situation sanitaire dans leur famille qui était peut-être à risque, liée à la question de la tuberculose, et puis aussi des difficultés sociales. Donc l'établissement accueillait ici, pour les mettre au grand air, des enfants sur des cycles de séjour sur plusieurs mois, quoi. Donc c'était la mission première, 1925. Et fin des années 60, début des années 70, la tuberculose avait bien reculé. Et puis au fil du temps, ces enfants qu'on accueillait ici n'avaient plus trop de risques de contracter la tuberculose, mais étaient toujours issus de milieux dans lesquels les conditions éducatives n'étaient pas simples. Donc il y a eu une espèce de glissement naturel comme ça, par rapport à une population ou un public qui est toujours un peu celui qu'on accueille aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants qui peuvent aussi être issus de milieux sociaux ou familiaux dans lesquels il y a des difficultés d'ordre éducatif. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, je vais trouver des traces de l'histoire, un récit qui va me permettre d'être un des directeurs. Il n'y avait pas de récit écrit, de récit suffisamment détaillé. Et je me suis engagé là-dessus il y a un peu plus d'un an, puisque c'était pour préparer la fête institutionnelle du 29 juin, là, qui célébrait le 50e anniversaire de l'établissement. Donc je suis remonté sur l'histoire de cet établissement. Vous avez dit, on est ici à la faisanderie. Mm-hmm. C'est assez intéressant d'ailleurs, comme façon de dire les choses.
Oui.
C'est-à-dire
en plus, c'est ce qui est indiqué hein, de la route.
C'est ce qui est...
Et c'est comme ça qu'on en parle.
C'est
souvent.
Comme ça qu'on en parle. On dit la faisanderie. Mm-hmm. On dit mon enfant est à la faisanderie, ouais, je travaille à la faisanderie.
Ouais.
Comme
quoi,
ce lieu, c'est un toponyme, le nom d'un endroit, mais c'est devenu.
Le nom de l'établissement.
Le nom de l'établissement, enfin... quelque chose qui est un peu englobant comme ça. Et voilà. Donc au départ, c'était une faisanderie. C'est-à-dire que c'est une longue histoire. En forêt de Compiègne, sous Louis XIV, il y avait des chasses. Et historiquement, ici, avant d'être une faisanderie, c'était probablement une fauconnerie. C'était un lieu où il y avait un élevage de faucons pèlerins. Et finalement, l'histoire première du lieu est une histoire liée à la question de la chasse et à la question de la forêt.
C'est bien placé, hein, au milieu
c'est
de la forêt.
C'est bien placé, donc des faucons pèlerins. Et donc, il y avait certainement un équipement ici sur ce lieu. Lieu qui a certainement été très habité bien avant, puisqu'on a trouvé des monnaies antiques de l'époque romaine, au moment où il y a eu des constructions de bâtiments ici. Il y a des puits, il y avait de l'eau. Donc, en général, quand il y avait de l'eau, il y avait la possibilité de vivre et
de faire des
campements rudimentaires.
Oui. Voilà.
Donc au Moyen-Âge, fauconnerie, et puis c'est Louis XIV qui, le premier, a fait ici un élevage de faisans. Et c'est sous Louis XV qu'on construit l'établissement que vous avez derrière vous, c'est-à-dire cette partie centrale, qui avait pour vocation, dans les deux ailes qui sont de chaque côté du pavillon principal, c'était des couvoirs à faisans. C'est le même architecte que celui qui a construit le palais impérial de Compiègne, Gabriel. Et puis il a été transformé en partie, mais sur la façade de l'autre côté, sous Napoléon Ier, qui a rajouté une avancée. Et puis il y a une troisième époque sous Charles X avec un fronton. Donc il y a trois époques architecturales sur le bâtiment. Le bâtiment central, c'était un logis. Il y avait une cuisine probablement, c'est là où on pouvait recevoir. Et sur les deux ailes, on élevait les faisans.
Et maintenant, c'est organisé comment, en fait, les différents bâtiments ?
Alors, ces bâtiments ont été transformés une première fois au sortir de la guerre de 14-18. Et donc, on a fait des travaux pour qu'au-dessus de ce qui était historiquement les couvoirs à faisans, on puisse créer des internats. Donc là, c'est le secteur enfant. On parle d'internat pour le secteur enfant.
Oui, parce qu'il y a des jeunes adultes, donc, aussi.
Voilà. Et puis, donc, là, on a une capacité d'accueil sur l'internat enfant de 16. Et puis, à l'autre bout du domaine, qui fait 19 hectares, on a un autre groupe qui accueille les adolescents, toujours avec une capacité de 16. Et puis un petit pavillon à côté dans lequel on propose à des jeunes qui sont majeurs, parce qu'ils peuvent être ici jusqu'à 20 ans, mais à partir de leurs 18 ans, on essaye de les accompagner vers l'autonomie dans la vie quotidienne. Plutôt que d'être sur un groupe collectif avec des éducateurs et un surveillant de nuit, ils sont 10 mètres à côté dans un pavillon un peu plus indépendant et ils apprennent un peu à aller vers une vie qui ressemble à la gestion d'un chez-soi.
Donc il y a des classes aussi, il y a une recyclerie,
c'est
des bâtiments pour des ateliers
30,
aussi.
Oui, 32 jeunes en internat, 48 qui viennent ici qu'à la journée. L'internat, c'est que la semaine, ils repartent chez eux le week-end. Une des particularités de la faisanderie, c'est qu'on a un gros secteur pédagogique avec 7 classes. C'est très important.
Donc ça veut dire 7 enseignants également ?
Alors, oui, et une coordinatrice. Une coordinatrice qui gère ce secteur pédagogique, 7 enseignants, des enseignantes spécialisées qui ont fait le choix de travailler ici. 3 sont issus de l'éducation nationale et les autres sont ici avec un contrat privé. Donc il y a une école privée finalement. Moi je défends beaucoup ce principe qu'on travaille sur un modèle capacitaire, c'est-à-dire que les enfants sont capables d'eux. Ils sont arrivés ici parce qu'ils n'étaient pas en capacité de s'inscrire dans autre chose, dans ce que le monde ordinaire ou les structures dites ordinaires proposent. Mais nous, on va les aborder avec cet esprit de penser qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont des capacités. À nous d'aller les chercher. Alors en pédagogie spécialisée, dans la classe, ce n'est pas toujours simple. Ils sont capables d'apprendre, mais d'apprendre autrement. Et c'est un apprentissage très individualisé, très différencié, avec aussi des choses qui se sont surajoutées, de la peur d'apprendre, des vécus d'échecs, des problèmes de rapport à l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose, quoi, l'apprentissage scolaire en particulier, c'est quelque chose de très complexe, quoi. Ce qui permet de les aborder dans leur globalité, c'est-à-dire qu'en classe, ils sont élèves, ils ont des vraies enseignantes, mais des enseignantes qui sont en capacité de...
Donc c'est plutôt féminin en plus, ouais, ouais, ça,
sur le pédagogique, on n'a que des enseignantes. Sur l'établissement, on a 60% de personnel féminin, 40% d'hommes. C'est important parce que les enfants ont besoin d'avoir des images comme ça d'hommes et de femmes. Hein, voilà. Et puis on a des garçons et des filles. Donc après, pour des choses très concrètes, c'est vrai qu'accompagner les filles dans la vie quotidienne en internat, pour la question de l'hygiène, des douches, bah, c'est normal que ce soit plutôt une femme qui les accompagne, les garçons aussi. Donc c'est aussi tout un apprentissage pour certains à l'intimité, au respect de leur corps, quoi. Donc un secteur pédagogique et un secteur éducatif côté enfant qui propose des activités qui sont là effectivement pour mobiliser du potentiel chez les enfants. Avec des médiations différentes, ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être des arts créatifs, ça peut être un projet autour de la radio.
Qui va être fait donc par Frédéric.
Tout à fait, donc des choses dynamiques de comme ça, qui mobilisent l'expression, qui mobilisent l'attention,
Il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et tu t'appelles comment ?» Alors je lui ai proposé éventuellement de parler dans le Zoom, mais bon, il a dû partir. Mais je pense que ça va les intéresser fortement.
Oui, je crois beaucoup moi, à ce projet et à donner la parole.
Et donc il y a des éducateurs, des enseignants, il y a un autre type de métier qui est
représenté. Des moniteurs d'atelier, parce que dans le secteur des adolescents, donc ça commence à 15 ans cette histoire. Autant sur l'âge de l'enfance, ça va être très centré sur la capacité à rentrer dans des apprentissages scolaires, c'est-à-dire d'avoir des outils de compréhension du monde. Le travail éducatif sur l'autonomie, ce qu'on appelle aussi la socialisation, c'est-à-dire le respect de règles sociales, vivre avec les autres, savoir se comporter, s'altériser. Et puis après, sur l'âge de l'adolescence, on va proposer à certains jeunes qui en ont le désir de réfléchir à une future activité professionnelle. Donc on va leur proposer ici 5 ateliers pré-professionnels, c'est du pré-apprentissage, c'est pas un centre de formation. Toujours avec des mêmes difficultés, c'est-à-dire chaque chose qu'on propose a toujours une dimension éducative, pédagogique et thérapeutique, parce que réussir, c'est valorisant pour son image, ça restaure une image des fois un peu dégradée.
De métier ?
Alors blanchisserie, tout ce qui va tourner autour de la gestion du linge, le lavage du linge, mais aussi du repassage, de la couture, maintenance du bâtiment, c'est de la polyvalence. Ça passe de la menuiserie à la peinture, des petits travaux de soudure, des petits travaux d'électricité.
Du coup, ils peuvent travailler directement sur les bâtiments en place, ce qui est pas mal.
Et en plus, donc, chacun des ateliers, vous l'avez compris, est à la fois un lieu d'apprentissage et des gestes techniques, mais aussi chaque atelier rend un service à l'établissement.
Bien sûr,
la blanchisserie rend un service
en direct,
à l'établissement, la maintenance rend un service à l'établissement. On a un autre atelier qui est espace vert. Voilà, donc ici, il y a de quoi faire. C'est un terrain d'aventure pour les espaces verts. On a un atelier de restauration collective, c'est-à-dire que c'est la gestion de l'alimentation collective de l'établissement, ce qui permet après d'avoir des débouchés dans les cantines scolaires, les restaurants universitaires.
Et vous savez s'il y en a beaucoup qui partent dans ces métiers-là
La préparation ici n'est pas forcément une filière professionnelle, c'est-à-dire un jeune peut avoir choisi ici de beaucoup s'investir en restauration collective et puis après de travailler en ESAT, par exemple en blanchisserie. L'essentiel, c'est qu'il est... intégrer ce que c'est où elle est intégrée, ce que c'est que la question du travail, question de l'effort, de respect de règles, d'utilisation de consignes. C'est une formation, mais ce n'est pas une spécialisation. Et on a un autre atelier dont je ne voulais pas parler, dont on est très fiers, qui s'appelle Improvis, qui est un atelier de restauration traiteur, qui lui a pour projet de réaliser de bonnes choses à manger. Et où les jeunes peuvent aussi parfois aller servir quand il y a des manifestations locales, un buffet, des choses comme ça. C'est valorisant. Enfin, moi, je crois beaucoup à ce qui s'appelle la valorisation des rôles sociaux. C'est-à-dire que votre regard à vous sera toujours plus important que le nôtre. C'est-à-dire que nous, on est professionnels, on vit finalement et on partage la vie de ces jeunes pendant longtemps. Mais dès qu'on est en capacité de leur proposer une situation sociale avec un regard sur ce qu'ils font, qui est un regard de tiers, c'est hyper important. Donc on les accompagne vers de la réussite, vers du succès, parce que ça leur fait gagner en estime d'eux-mêmes, et c'est hyper important.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à la Faisanderie avec Jean-François Vattier, directeur de cet établissement, donc Institut Médico-Éducatif, dans la forêt de Compiègne. C'était la première partie de cette émission. Une seconde partie vous sera présentée ultérieurement.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.